Chansons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans Accent. Il y a tout juste un mois, un bateau chargé de 340 migrants syriens était en perdition au large de Chypre. Après avoir été secourus, ils sont désormais logés à une quinzaine de kilomètres de Nicosie, dans un campement de fortune, sous des tentes de toile. Ils ne veulent pas demander l'asile, ils souhaitent gagner des terres européennes bien plus hospitalières. Michel Picard est allé à leur rencontre.
De Nicosie, cap à l'ouest par l'autoroute, un quart d'heure plus tard, après la sortie Kokkinotrimitia, la zone industrielle et un chemin de terre, au milieu de nulle part, des dizaines de tentes au sein d'un enclos surmonté de barbelés. À travers le grillage, Rami, la quarantaine, décrit son quotidien.
Voilà les tentes, elles sont divisées en sections, pour les familles et pour les hommes seuls comme nous. Et puis il y a aussi des tentes où les enfants peuvent jouer. Tout cela c'est du temporaire, avec la pluie c'est terrible parce que ce sont des tentes et pas des maisons en dur.
L'étape chypriote n'était pas prévue au programme pour ce groupe parti de Latakia en Syrie.
Notre destination n'était pas Chypre, c'était l'Italie. Et ensuite, on voulait rejoindre un pays pour y faire venir la famille, comme l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas ou la Suède. En moyenne, on a payé 6 000 $ pour aller là-bas. Moi, j'ai dû vendre ma maison. Lui, c'est sa famille qui lui a donné l'argent pour partir.
Sur les 340 migrants, seuls 4 ont rempli les formulaires de demande d'asile. Le regard triste, Mohamed se dit désespéré par la tournure des événements.
We live Syria because of war.
On a quitté la Syrie à cause de la guerre, c'est vraiment horrible. On veut de la sécurité, on espère aller en Europe. Ici, les conditions des réfugiés sont mauvaises, deux choses en particulier. On n'a pas le droit de travailler, ni de faire venir nos familles.
Mazen, lui, est venu avec ses frères et sœurs.
Ils nous autorisent au camp à téléphoner 2 minutes par semaine. J'ai dit à mes parents que j'allais bien, mais mon petit frère ne dort plus. Il a peur, il ne mange pas. Il y en a beaucoup qui ont tenté de se suicider.
Quant à Amal, jeune cadre dynamique de Homs avant la guerre, elle n'en revient pas d'être accueillie dans de telles conditions.
Il faut que les pays européens nous trouvent une solution. Les pays qui peuvent nous donner une vie meilleure, nous accorder tous nos droits en tant que réfugiés. Droit à l'éducation, à la santé, à une maison. Finir sous la tente, ce n'est pas possible.
Les réfugiés sont autorisés chaque matin à quitter le camp pour rentrer en fin d'après-midi. Des bus les emmènent à Nicosie. C'est là, sur une artère passante du centre-ville, devant la représentation de l'Union européenne, que nous retrouvons la plupart de ceux qui ont rejoint la capitale. Ils réclament une action de Bruxelles pour les aider à gagner un pays d'Europe continentale. Les côtes chypriotes sont séparées des côtes syriennes d'une centaine de kilomètres à peine. Et pourtant, c'est la première fois que Chypre enregistre un tel afflux de Syriens. Rien d'étonnant selon Omar, car l'île se transforme vite en prison pour migrants.
We can't leave. This is the problem.
On ne peut pas partir, c'est le problème. Si on entame des démarches pour demander l'asile, ce sera pareil, on ne pourra plus partir et il faudra se battre pour notre dossier. Au mieux, on obtiendra la protection subsidiaire, mais ça ne nous donnera rien, notamment pas le droit de faire venir nos familles. C'est un gros problème pour nous. On a tous des membres de nos familles en Syrie, sous le feu des combats. On doit les faire sortir, mais on ne peut pas partir, on est piégés ici. Donc aujourd'hui, nous ne sommes ni demandeurs d'asile, ni résidents. On est entre les deux.
Up till now, we are in between.
Face à l'impasse, si les plus âgés misent sur une intervention européenne, les plus jeunes n'y croient pas. Nour ne s'imagine pas rester là.
On va reprendre la mer, recommencer. On a vendu nos maisons, nos voitures pour venir ici. On veut juste offrir une vie meilleure à nos enfants.
Légalement impossible de fuir Chypre, Mazen rentre tout juste du quartier arabe de la ville où il vient de se voir offrir une porte de sortie.
Dans la rue des Arabes, j'ai trouvé plusieurs passeurs. Mais on a vendu notre âme une fois. Si on recommence, c'est juste qu'on est stupide.
Pourtant, Bachar le reconnaît, s'il ne le fait pas pour lui, il le fera pour sa famille. Mais le voyage en mer a été un tel choc que cet adolescent de 17 ans ne sait toujours pas quelle décision prendre.
Si nous n'avons pas le choix, on le fera. Mais c'est difficile de décider de reprendre la mer. Le voyage sur le bateau était un cauchemar. Il y en a qui sont allés dans la partie turque de Chypre pour continuer le chemin de manière illégale. Je veux juste être avec ma famille, faire mes études et vivre comme les gens normaux.
À tous ces réfugiés désespérés, le gouvernement chypriote promet une liberté de mouvement pendant 3 mois, mais ensuite ils seront déclarés illégaux s'ils ne demandent pas l'asile.
Et nous reparlerons des réfugiés la semaine prochaine avec un reportage dans la banlieue de Stockholm, en Suède. C'est l'un des incontournables des fêtes de fin d'année, mais le saumon a mauvaise presse en ce moment à cause des conditions d'élevage et des substances toxiques qu'il ingère. Plus gros producteur mondial avec plus d'un million de tonnes par an, la Norvège est clairement pointée du doigt. Du coup, l'Irlande, elle, est partie en croisade pour faire valoir sa différence. Avec sa production d'à peine 17 000 tonnes, les Irlandais peuvent certifier que cette production est à plus de 80% bio. C'est d'ailleurs un des objectifs inscrits dans la politique agricole commune européenne, la reconversion vers le bio. L'Irlande s'est donc positionnée avec succès sur ce marché haut de gamme. Mais la croissance inquiète. Sébastien Duval s'est rendu dans le Connemara.
Des nuages menaçants encombrent l'horizon, mais les bourrasques de vent retardent l'arrivée de la pluie. Secoué par la houle, Bobby Kerr se rend sur son élevage de saumon, au large de la petite île de Lettermoulan. Plantée dans les décors somptueux du Connemara, la ferme marine Bravanbio abrite une quinzaine d'enclos. Chacun d'entre eux contient environ 25 000 poissons, qui frétillent à la surface sous nos yeux. C'est l'heure du repas.
Ce sont des granulés. Ils contiennent de la farine de poisson, des huiles de poisson, des protéines végétales, du blé, du tournesol et des pois. On n'y trouve absolument aucun pesticide. Tout est certifié bio, à commencer par notre ferme. Les saumons proviennent d'une écloserie d'eau douce qui est également certifiée bio, comme l'usine dans laquelle ils sont envoyés après avoir été abattus. Les exigences du label bio sont respectées tout au long de la chaîne.
Loin de toute activité humaine, le site est, semble-t-il, protégé des tempêtes qui pourraient endommager les filets. Il est également soumis à de forts courants, ce qui présente un double avantage, le brassage des déchets et un peu d'exercice pour les poissons. Bravanbio travaille pour une petite coopérative irlandaise, l'ISPG. Installée dans le pays depuis la fin des années 90, la Française Valérie Cook en est la directrice des ventes. Selon elle, le bio était la seule porte de sortie du saumon irlandais.
On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus faire face à la concurrence norvégienne. En 2001-2002, il y a eu un gros crash au niveau des prix du saumon norvégien. Et là, il a fallu se différencier d'une façon ou d'une autre, ou alors on fermait la porte. Tout le monde nous le disait, le poisson, il était exceptionnel. Il était d'une qualité différente de celle du norvégien. Après, c'était à nous de trouver la façon dont il fallait le mettre en avant et trouver une niche. Et c'est vrai que le bio a bien marché pour nous.
La fumerie Cispray se trouve à quelques kilomètres seulement de la ferme, au bord de l'eau. Sean Gavin nous fait visiter sa petite entreprise, dont se dégage une délicieuse odeur de fumée.
Seulement du chêne. On ne mélange pas avec d'autres bois comme le bouleau ou le pommier. Le chêne est plutôt doux alors que certains bois peuvent être très forts. Vous n'avez alors que le goût de la fumée. Dans notre cas, vous pouvez à la fois apprécier la fumée et le poisson.
L'usine est spécialisée dans le saumon bio. La grande majorité de ses produits est destinée à l'export. Vers l'Allemagne, la France ou l'Amérique du Nord, ses plus gros marchés. La demande est de plus en plus importante. Le directeur regrette d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment de poissons pour y faire face.
Nous avons besoin d'augmenter la production de saumon bio. Même en la multipliant par 2, cela ne resterait qu'un pourcentage infime de la consommation mondiale de saumon. On ne demande pas davantage, seulement une petite part de marché. Cela permettrait de créer des emplois localement. Nous avons par exemple embauché 10 personnes cette année, car il y avait plus de poissons à disposition. Mais nous ne fonctionnons qu'à environ 40% de nos capacités. Nous pourrions plus que doubler notre production si nous avions plus de matières premières.
On s'arrête sur la route de Galway, dans un pub traditionnel face à la mer, le Tiernanog, la terre des jeunes en gaélique. Deux anciens jouent aux cartes au coin de la cheminée, une pinte de Guinness à portée de main. Ici, le sujet du saumon revient régulièrement sur le comptoir. Une nouvelle ferme d'élevage bio pourrait bientôt voir le jour au large des îles d'Arran, sur plus de 450 hectares. Elle permettrait de doubler la production annuelle de saumon irlandais. Un projet d'envergure que le patron Martin O'Kelly ne voit pas d'un bon œil.
Je sais qu'il y a déjà des fermes marines en Irlande, mais elles sont toutes petites par rapport à celles qu'ils ont l'intention d'ouvrir dans la baie de Galway. Je crains que ça n'entraîne la destruction de ressources de poissons sauvages. Alors qu'il y a beaucoup de petits pêcheurs dans le coin qui arrivent à plutôt bien gagner leur vie. Mon grand-père avait l'habitude de dire « Un jour, les gens se demanderont si l'on a déjà attrapé un poisson dans cette baie. Si cette nouvelle ferme voit le jour, j'ai peur que ces mots ne deviennent réalité. »
Les défenseurs de l'environnement craignent notamment la prolifération du pou de mer. Ce parasite représente un danger pour les espèces sauvages environnantes. Les producteurs affirment respecter des normes très strictes en la matière. Mais le poissonnier du marché de Galway, Stéphane, partage l'inquiétude de la population quant à l'ampleur du projet.
Ils essayent de développer une grosse ferme sur la baie de Galway, et malgré qu'on vend du saumon ici sur notre entreprise, je pense que le projet il est un peu trop démesuré pour la taille de la baie.
Ça reste un produit de qualité, le saumon irlandais.
Alors, le saumon irlandais est très très bon, hein, c'est un produit de qualité. Les farines qui sont utilisées sont des farines de qualité. L'huile qu'ils utilisent pour produire le saumon, c'est une huile de qualité également. Et les temps de croissance du saumon sont un peu plus lents que le saumon de Norvège. Donc ça, à la fin, ça fait un produit qui est de meilleure qualité dans tous les cas. Quoi.
Même s'il est surtout destiné à l'export, les Irlandais restent friands de leur saumon atlantique. Le poissonnier de Galway a écoulé tout son stock ce jour-là sur le marché, à 18,50 € le kilo.
Un reportage donc de Sébastien Duval, réalisé avec l'aide de l'Union Européenne. Vous en entendez la bande-annonce, et c'est l'histoire d'un feuilleton, d'une série pas comme les autres, visible en ce moment même sur les écrans russes. Une série destinée aux adolescents et qui évoque directement Tchernobyl. Alors on en parle avec Muriel Pomponne, notre correspondante à Moscou. Tchernobyl, la zone d'exclusion. Muriel, c'est le titre de ce programme qui évoque la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle que n'ont évidemment pas connu les plus jeunes.
Eh oui, effectivement, c'était le 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, libérant un nuage radioactif qui a contaminé toute l'Europe. Pour maîtriser l'incendie du réacteur, des hommes que l'on surnommera les liquidateurs doivent intervenir dans des conditions extrêmement dangereuses. Plus de 200 000 personnes seront évacuées définitivement de la zone la plus dangereuse, notamment tous les habitants de la localité de Pripyat, la plus proche de la centrale nucléaire. Et puis quant au bilan, eh bien, il oscille entre 31 morts et 100 000, selon que l'on considère les personnes mortes au moment de l'accident ou bien tous ceux qui sont morts parfois des années après pour avoir reçu une trop forte dose de radiation. Mais cette catastrophe s'est déroulée il y a 28 ans et les jeunes Russes la connaissent fort mal.
Alors Muriel, la télé s'est emparée donc de cette catastrophe pour en faire une série à destination de cette génération précisément.
Absolument, ce n'est pas un documentaire, hein. C'est bien une série de fiction qui se déroule essentiellement à Pripyat, hein, cette ville fantôme aux immeubles vides, aux rues désertes, d'où émerge la grande roue d'un manège abandonné. C'est à la fois un road movie, un thriller, un film catastrophe, l'histoire de 5 adolescents qui se lancent à la poursuite d'un cambrioleur et se retrouvent à Tchernobyl. C'est violent, avec des méchants, des armes, des voitures qui se retournent, des explosions, des animaux menaçants. Cela rappelle d'ailleurs que les animaux domestiques ont été abandonnés. Et qui sait, ils sont peut-être devenus loups-garous. En tout cas, à travers ces aventures, le film raconte aussi ce qui s'est passé et les conséquences pour la population locale.
Alors, est-ce qu'on parle encore de Tchernobyl en Russie ?
Tchernobyl, c'est presque devenu un nom commun. Par exemple, quand on voit sur un étalage un légume particulièrement gros, on va dire « Je me demande dans quel Tchernobyl il a été cueilli ». Mais plus sérieusement, ce n'est pas un sujet tabou, mais ce n'est plus d'actualité. Dans les années 90-2000, les liquidateurs ont fait parler d'eux quand ils ne recevaient pas leur pension. Maintenant, c'est rentré dans l'ordre. Cela dit, de nombreuses personnes sont toujours handicapées à cause des radiations et reçoivent toujours des soins. Quant au réacteur accidenté, eh bien, il doit recevoir un nouveau sarcophage qui est en cours de construction, une structure de 20 000 tonnes qui doit normalement être achevée l'année prochaine, car le sarcophage mis en place juste après la catastrophe est insuffisant. Et puis, il faut toujours évacuer et traiter les déchets. Autant dire que l'on va entendre parler de Tchernobyl encore très longtemps.
Voilà Muriel Pomponne, notre correspondante en Russie. La catastrophe de Tchernobyl qui a donc des conséquences 30 ans plus tard. À l'époque, dans toute la Laponie, en 86, la cueillette des baies et des champignons était interdite. Il a fallu abattre des troupeaux entiers de rennes. Aujourd'hui encore, en Laponie norvégienne, les rennes sont de nouveau impropres à la consommation. En cette année 2014, ils sont radioactifs. Pauline Curtet nous en dit plus.
La Foliote ridée, un champignon que l'on ne trouve que dans les régions septentrionales, c'est le responsable et malheureusement, les rennes en raffolent. Cette année, ce champignon a poussé en abondance dans la taïga lapone. Des terres qui, depuis la catastrophe de Tchernobyl, concentrent un fort taux de radioactivité. Résultat, plus les rennes se sont régalées, plus ils se sont contaminés. Les chiffres sont impressionnants. En temps normal, ces animaux concentrent entre 1500 et 2000 becquerels par kilo. C'est l'unité de mesure de la radioactivité. Cette année, ils en concentrent jusqu'à 8200 par kilo. Autrement dit, il est hors de question dans l'immédiat de consommer la viande de rennes norvégiens, même si c'est toujours fin septembre que les éleveurs abattent leurs bêtes. Ce pic radioactif a surpris éleveurs et chercheurs. Dans les années 90, on leur avait annoncé la mauvaise nouvelle. La Laponie était l'une des régions la plus contaminée par Tchernobyl. Mais depuis le début des années 2000, la pollution semblait diminuer. L'année 2014 a prouvé le contraire. L'une des explications de ce phénomène est le climat, particulièrement chaud cet été, qui a permis aux champignons de pousser en d'énormes quantités. Heureusement pour les éleveurs, il reste des solutions, car la radioactivité a une durée de vie très courte chez les rennes. D'après les auteurs de l'étude, il suffit qu'ils soient nourris d'aliments sains pendant quelques semaines pour que leur taux de radioactivité retombe de moitié sous le seuil des 3000 becquerels par kilo autorisé pour une viande destinée à la consommation humaine. Si ce taux est considéré comme inoffensif, il reste encore très loin de la quantité normale de radioactivité présente dans la viande, 0,5 becquerels par kilo.
Que faire d'une loi quand elle est devenue bien obsolète? Et bien souvent, elle traîne encore dans les codes civils. C'est le cas dans tous les pays, notamment au Royaume-Uni. Des lois vieilles et quelquefois de plusieurs centaines d'années sont toujours officiellement en vigueur. Marie Billon nous en a retrouvé quelques-unes les plus excentriques.
Le Royaume-Uni est connu pour être terre de coutumes. Des petits cérémoniaux plus ou moins contraignants, toujours originaux, mais tombés en désuétude depuis longtemps. On est par exemple censé manger ses petits pois à la menthe avec le revers de la fourchette. Peu de personnes atteignent aujourd'hui ce niveau de dextérité. Mais il y a aussi certains usages tout aussi étonnants qui sont en fait de véritables textes légaux. Et un Britannique zélé aurait tout à fait le droit de les appliquer si l'envie lui en prenait. Par exemple, une femme enceinte a le droit de soulager sa vessie où elle veut, et même dans le casque d'un policier si elle en fait la demande. Un homme peut lui aussi uriner en public, mais sous certaines conditions. Il doit viser la roue de sa voiture et pas celle d'à côté, et garder la main droite, c'est précis, sur le véhicule. Ces lois-là, aussi loufoques soient-elles, ne portent pas à conséquence, mais d'autres, toujours en vigueur sur le papier, sont plus inquiétantes. Il est par exemple encore tout à fait légal, à York, au nord de l'Angleterre, de tuer un Écossais si celui-ci porte sur lui un arc et des flèches, sauf le dimanche, là c'est interdit. Et pour rester dans le registre Robin des Bois, tous les hommes anglais âgés de plus de 14 ans doivent pratiquer 2 heures de tir à l'arc par jour. De textes qui ne sont plus appliqués et dont tout le monde a oublié l'existence, il y a d'autres lois par contre qui sont dangereuses à ignorer. Par exemple, c'est un acte de trahison de coller un timbre-poste avec la tête du monarque à l'envers. Et puis il y a aussi les coutumes, ces lois non écrites que même un parterre d'experts n'ose pas remettre en cause. Ainsi, les titres et les terres ne peuvent être légués qu'à un héritier mâle, et s'il n'y en a pas, eh bien le titre meurt avec le dernier homme de la lignée. Les femmes ont depuis longtemps tenté de prouver que ces coutumes étaient obsolètes, sans succès.
Accent d'Europe, c'est fini jusqu'à demain à la réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez nous retrouver tout de suite sur RFI.fr et évidemment sur notre page Facebook. En attendant, restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un instant, un peu de patience, les infos.